Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world. Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, quatrième partie consacrée à l'ancien Premier ministre Robert Menzies. Dans celle-ci, on va s'intéresser à ses dernières années au pouvoir en tant que Premier ministre, mais aussi à sa vision sur un monde autour de lui qui est profondément en train de changer. D'un côté, la guerre froide, de l'autre, la décolonisation, mais aussi des réformes assez importantes mises en œuvre en Australie. C'est tous ces points qu'on va aborder aujourd'hui et je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente écoute. Okay. Donc gagner des élections en agitant une peur plus fantasmée que réelle, ça aussi, il semble que ce ne soit pas resté cantonné aux années 50. On avance. Cette période de l'après-guerre, il y a énormément de changements partout à travers le monde. Il n'y a pas juste la guerre froide, c'est aussi celle de la fin des empires coloniaux un peu partout, et notamment celui de l'Empire britannique. Robert Menzies, on sait que c'est un très fervent défenseur de la monarchie britannique. Est-ce qu'on sait, en revanche, comment il vit cette période, enfin voilà, ce modèle qu'il adule, qui est en train un petit peu de perdre de son prestige? On imagine qu'il ne le vit pas très bien.
Alors, il ne le vit pas très bien, mais c'est pareil, il ne le voit pas vraiment, parce qu'il est convaincu de son bon droit de ce côté-là, en devient risible en fait. C'est-à-dire que quand il quitte le pouvoir en 66, c'est le dernier des Mohicans. C'est quelqu'un qui est obsédé par la reine d'Angleterre à partir de 53, qui l'invite, qui fait un discours, il reste un tableau assez mémorable de la reine Elisabeth II, qui est toute jeune reine à l'époque. Il est obsédé par la Grande-Bretagne. Si bien que, en fait, pendant sa retraite, il a une espèce de lordship et il part en Grande-Bretagne s'installer. Enfin, c'est assez ahurissant parce que c'est vraiment le dernier des Mohicans. On aurait vu ce type de comportement au 19e siècle, on l'aurait compris. Mais lui, vous l'avez rappelé, c'est le premier ministre dont les parents sont nés en Australie. Donc théoriquement, on aurait pu attendre un peu plus de nationalisme fait maison, si vous voulez. Mais pas du tout. C'est un nationalisme très cohérent avec l'histoire australienne, mais du siècle précédent.
Qui plus est, pour un Écossais, on aurait pu attendre qu'il soit un peu plus détaché de Londres et de l'Angleterre. Pardon.
C'est quelqu'un qui est obsédé par les titres britanniques, la petite gloriole comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand il part en 66, ça lève une chape de plomb en Australie parce que il a laissé coincer. En fait, l'Australie est devenue poussiéreuse. Poussiéreuse. Le monde a bougé, a évolué. Il y a eu des décolonisations. La couronne britannique les a parfois accompagnés. Et lui, en fait, non, nous sommes britanniques, nous allons rester, nous sommes le bastion, nous avons des valeurs britanniques, nous parlons anglais, notre littérature, c'est Shakespeare. Voilà, c'est assez impressionnant. Extrêmement conservateur dans l'art, c'est le moment où les peintres australiens produisent des croûtes absolument phénoménales, enfin hideuses. Et voilà, il n'y a pas d'encouragement pour l'art, pour le cinéma. Autant il fait des choses importantes. Là, je suis en train de peindre un tableau, donc je vais m'autocoriser. C'est quelqu'un qui a une grande vision pour l'industrie australienne, qui importe des migrants pour ouvrir l'économie australienne également, qui multiplie la création d'universités parce qu'il est extrêmement important pour lui que le pays devienne plus intelligent. Donc, c'est un visionnaire. Si vous voulez, c'est un peu comme la période gaullienne avec des grands plans, des grands travaux. Il faut moderniser le pays. Et ça, là-dessus, il y arrive. Mais culturellement, c'est très... C'est le dernier des Mohicans, comme je l'ai dit. Il y a un pareil pour mes auditeurs qui parlent anglais, un des discours les plus connus d'un premier ministre travailliste plus tard qui s'appelle Paul Keating. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Paul Keating Cultural Cringe, Keating peint, fait un tableau des années 50 sous Menzies et c'est à mourir de rire. Parce que voilà, c'est la Grande-Bretagne, même pas à papa, c'est la Grande-Bretagne à grand-papa, quoi, si vous voulez. Donc là-dessus, il représente une Australie qui n'a pas voulu laisser partir l'Empire. C'est-à-dire que c'est les derniers à réaliser qu'il n'y a plus d'Empire, que c'est une coquille vide, que le monde a changé, et pourtant c'est quelque chose qui était important pour eux. Et donc ça ouvre après les années 70, dont on a parlé avec Whitlam, où on se pose la question de l'hymne national, du drapeau, toutes ces choses-là. Mais pour l'heure, entre 49 et 66, pour Menzies, il ne s'agit pas d'avoir une neutralité culturellement indépendante. La culture australienne est essentiellement la culture britannique.
Alors, deux choses importantes qui se sont passées sous les très longs mandats de Robert Menzies, mais c'est des sujets dont on a déjà parlé dans de précédents épisodes que je vous invite à aller écouter ou réécouter. Mais donc, il y a ce contexte de la guerre froide, il y a aussi cette frousse qu'a provoqué le Japon en Australie pendant la Deuxième Guerre mondiale qui le pousse à prendre deux décisions quand même significatives. D'une part, autoriser les Britanniques à faire des tests nucléaires en Australie, et on l'avait déjà dit dans les deux épisodes qu'on a consacrés à cette affaire, c'est quand même le seul pays au monde qui a autorisé un pays étranger à faire exploser des bombes nucléaires sur son propre territoire, c'est quand même assez dingue. Et puis le deuxième sujet, c'est donc que l'Australie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se rend compte qu'elle est au final un tout petit pays et qu'elle est ouverte à toute possible invention, qu'elle soit réelle ou supposée. Et donc, il va, pour peupler l'Australie dans des proportions jugées suffisantes, commencer un petit peu à affaiblir la fameuse politique de l'Australie blanche et s'ouvrir timidement à d'autres peuples que les Anglais, les Celtes, etc., etc., quoi. C'est sous Menzies que ces deux choses-là se passent.
Alors, vous me corrigerez peut-être, mais de mémoire, il y a un autre pays indépendant qui laisse un autre pays faire des tests nucléaires chez lui. C'est l'Algérie d'après 62. De mémoire, le test gervois, c'est une fois l'indépendance de l'Algérie passée. Je pourrais être corrigé par un auditeur, là, mais voilà. Tout ça pour dire que c'est pas nécessairement vu comme un autre pays, puisque on vient de le rappeler, Menzies conçoit l'Australie comme une partie de l'Empire britannique et que de toute façon la reine d'Angleterre est reine d'Australie. Et c'est chez eux, quoi. Enfin, c'est pas chez eux, puisque pour lui c'est un peu le même peuple. Et donc effectivement, il est assez visionnaire là-dessus. Des tests qui sont réalisés en Australie occidentale, puis en Australie méridionale. Il y a eu un livre d'une collègue qui vient de paraître, qui s'appelle Jess Irwin, et de mémoire, le titre de son livre, c'est « Contaminated Nations », justement sur les essais atomiques qui ont eu lieu, qui ont eu des retombées extrêmement néfastes sur les terres aborigènes et sur les personnes aborigènes qui se trouvaient là quand les évacuations n'ont pas été toujours bien menées. Le but, c'est de faire avancer le programme nucléaire britannique parce qu'il pourrait protéger les Australiens. Or, ça s'est pas passé comme ça. Les Britanniques ont été très contents d'obtenir le nucléaire, mais pour eux. Donc, il a joué sur plusieurs tableaux pour être couvert du fait de la peur des communistes aussi, en signant un traité Lanzhus avec Nouvelle-Zélande et puis les États-Unis où assez tôt finalement il y a une ambiguïté sur est-ce que l'Australie bénéficie du parapluie nucléaire, déjà c'est assez dissuasif. Et le rêve de Menzies aurait été de se munir de la bombe atomique, mais c'est très clairement pas concevable à cette époque-là. L'Australie n'en a ni les moyens, ni les capacités techniques, militaires, d'ingénierie ou scientifiques. En revanche, ce qui leur est plu aussi, c'est de commencer et d'avoir un parc nucléaire. Mais tout ça, c'est pas fait, en fait, parce que les Britanniques n'ont pas été très n'ont pas eu beaucoup de fair play à cet égard et pas réellement aidé les Australiens. Donc, vous savez, le parti de libéral en ce moment en Australie a fait sa dernière campagne sur les coûts de l'électricité qui sont très forts en Australie et qui polluent énormément parce qu'on utilise beaucoup de charbon, en disant bah, il faut faire du nucléaire. Voilà, c'était le moment où en fait l'Australie a un peu raté le train, mais pas parce qu'elle ne le voulait pas, parce que ça ne s'est pas fait. Mais Menzies, à l'époque, l'aurait souhaité.
Je me permets de vous interrompre pour vous fact-checker. Le test Gervoise bleue, c'est en 1960, donc en plein pendant la guerre d'Algérie et avant que celle-ci soit indépendante. Pardon, je vous
Bien
laisse
joué.
reprendre.
Non, non. Alors, pendant que je réponds à la fin sur l'Australie blanche, peut-être double ou triple fact-checkez-moi, parce que de mémoire, il y a eu plusieurs tests français et que au sein des accords d'Évian, il a été conclu que la France pouvait utiliser le sol algérien jusqu'en 64. Alors ça, c'est mes cours d'histoire de troisième et j'ai peut-être tout oublié, mais je suis intéressé par savoir si voilà, il me reste quelque chose. Pour le point Australie blanche, ça va main dans la main avec ce que je disais sur le nucléaire et l'industrie. L'Australie a beaucoup de produits d'extraction, la mine et aussi agricole. Beaucoup de blé, beaucoup de laine. Et Menzies voit bien que le futur des pays développés c'est dans l'industrie, de fabriquer des téléphones, des voitures, et il y arrive très bien. Il y a une proto-industrie grâce à la Seconde Guerre mondiale, avec quelques voitures, quelques avions, et il capitalise là-dessus. En fait, il a aussi bénéficié du gouvernement travailliste qui le précède, donc avant qu'il arrive en 49, qui a une politique active pour industrialiser le pays, politique qu'il continue, parce qu'il voit très clairement que c'est dans l'intérêt de l'Australie. Et pour ce faire, il continue aussi la politique d'après-guerre travailliste, qui était une rupture fondamentale pour les travaillistes, parce que vous avez un ministre d'immigration, le premier ministre de l'immigration en 45 ou 46 de mémoire, qui s'appelle Arthur Calwell, qui est de gauche, et qui vend cette politique de populate or perish. Il faut se peupler ou mourir. Parce que l'Australie a eu très peur pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée impériale japonaise, c'est immense, hein. L'Australie, en 39, c'est moins de 7 millions de personnes. Et en 45, on n'en met pas beaucoup plus. Et donc, il faut peupler, 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 peupler. Et pour ce faire, le gouvernement travailliste sait bien que les Australiens ne sont pas prêts à laisser rentrer des personnes qui ne soient pas blanches. Ils essaient de recruter des Britanniques, il n'y en a pas assez. Et donc, ils commencent à recruter des anciens déportés de la guerre en Europe, donc des personnes d'Europe du Nord, parce qu'ils sont très blancs, très blonds. Et puis, voire des anciens ennemis, hein, des Allemands, des Autrichiens. Mais pareil. Ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas parce que c'est le moment des grandes migrations. Les gens retournent chez eux ou partent au Canada ou partent aux États-Unis. Mais c'est un moment où il y a de l'emploi. Donc les Britanniques, ils vont dans leurs usines, ils n'ont pas besoin d'aller au bout du monde. Donc le Labour a du mal. Menzies, lui, ce qu'il voit, c'est que les mentalités évoluent et que on pourrait peut-être proposer aux Australiens des blancs un peu moins blancs. Donc des Grecs. Donc des Italiens. Et donc dans les années Menzies, il y a effectivement le début du démantèlement de la politique de l'Australie blanche. Parce que effectivement ouvrir la porte aux immigrants blancs, ce qu'a fait le gouvernement travailliste avant, ça compte pas vraiment dans la mesure où ethniquement ils sont assez similaires. Mais avec Menzies, on voit que d'autres cultures peuvent probablement enrichir le pays, à la fois de façon économique, mais enrichir aussi culturellement. Et ça passe plutôt bien, c'est promu par le gouvernement, et ça se fait via des grands chantiers comme les barrages hydrauliques de la Snowy Rivers, qui sont encore d'actualité aujourd'hui, où on fait venir des ouvriers qualifiés de toute l'Europe pour venir construire ces barrages. Et ça passe très bien parce que voilà, c'est l'image un peu d'Épinal d'une Australie unie au travail où il y a de l'industrie. Et puis, Et puis Melville en bénéficie, et c'est aussi une des raisons de sa longévité politique, c'est que pendant ces années-là, effectivement, culturellement, c'est plan-plan, on regarde ça aujourd'hui en se disant, mais c'est pas possible. Mais économiquement, vraiment, c'est le moment des Trente Glorieuses aussi pour l'Australie. Et donc, il n'y a pas de raison de changer de gouvernement quand, finalement, économiquement, bah, vous arrivez à vous acheter un frigo, une voiture, les banlieues australiennes sont en pleine explosion. Donc, les années Menzies, finalement, pour de nombreux Australiens, ça a été des années de croissance.
Alors, on va y venir sur cette période de prospérité économique, mais pour terminer le fact-checking et contre-fact-checking, effectivement, il y a eu des tests français en Algérie jusqu'en 1966, et qui ont été négociés, effectivement, dans le cadre des accords d'Évian. Ceci étant dit, et parce que je suis quand même un petit peu de mauvaise foi, il y a quand même une différence entre un pays qui n'est sous la menace de personne et un autre qui est en train de se battre et de négocier son indépendance avec son ancienne puissance coloniale. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les Australiens, personne ne les a contraints et ils ont dit « allez-y, faites-vous plaisir », alors que les Algériens, on peut comprendre qu'à ce moment-là, il y avait peut-être des priorités plus importantes que laisser ou non des Français faire exploser des bombes en plein désert.
Tout à fait. On a tous les deux raison. Voilà, on va conclure là-dessus que historiquement j'avais les dates, mais que oui, sur le principe, le contexte est évidemment totalement différent. Oui, vous avez raison.
On va en rester là pour aujourd'hui et on vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour écouter la dernière partie de cet épisode consacré à Robert Menzies. Nous espérons que vous avez apprécié ces quatre premiers et on vous dit donc à très bientôt pour la fin de cette histoire. Merci et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world. Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.